Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Merci de m'accompagner encore aujourd'hui à la découverte des femmes artistes, créatrices au cours du temps. L'émission précédente, pour aborder encore la fin du 19e et la première moitié du 20e siècle, nous nous sommes tournés davantage vers les arts plastiques, notamment les peintres, et j'ai présenté principalement des Polonaises. Alors, je vous disais également que malgré leur grand nombre, l'ouverture des écoles et des accès aux concours artistiques facilités, les femmes artistes peinent à être reconnues et souffrent d'un manque de visibilité. Et celles qui parviennent le mieux s'inscrivent pour la plupart dans les courants et les mouvements artistiques novateurs. Alors aujourd'hui, nous cheminerons encore avec des créatrices, artistes, arts plastiques, ou exerçant d'autres activités de création. Ce sont notamment des étrangères, hein, et nous allons voir comment ces créatrices s'inscrivent dans ces mouvements qui naissent à ces époques. Alors nous allons faire la connaissance en premier lieu d'une Irlandaise née en 1878 et nommée Helen Gray. Celle-ci endosse la particularité d'être designer et architecte. Alors c'est quelqu'un qui est surtout connu pour avoir apporté une touche personnelle au mobilier art déco avec ses finitions laquées. Et en effet, elle fut initiée à la laque par l'artisan laqueur japonais Sugawara, technique qu'elle s'appropria et à laquelle elle apporta ses propres développements en vue de réalisations occidentales contemporaines. En architecture, elle se révèle une adepte du style international qui est né dans les années 20 et qui se distingue des autres méthodes de construction car il propose l'utilisation de structures en acier. Et c'est d'ailleurs en tant qu'architecte qu'elle a créé, réalisé entre autres une villa en France, dans les Alpes-Maritimes, qui a obtenu le label patrimoine du XXe siècle, car elle est le reflet typique de ce courant qui s'affirme comme étant une architecture moderniste, donc en lien avec de nouveaux styles de vie, et l'utilisation de nouveaux matériaux comme l'acier et le béton. Alors cette femme a été oubliée elle aussi pendant un moment malgré sa forte créativité et l'importance de son travail pour être redécouverte en fin de vie et après sa mort. Et certaines de ses œuvres sont maintenant classées au titre de monuments historiques. Alors elle aussi était venue à Paris pour suivre des cours à l'Académie Calarossi et à l'Académie Julian, que vous devez connaître maintenant parce que je les cite souvent. C'était des écoles incontournables pour les apprentis artistes, peintres, sculpteurs, etc. et ouvertes à l'international. Alors Helen Gray se mêla surtout aux artistes anglo-saxons, les peintres, les poètes, la poétesse Mima Loy, dont je vous ai déjà parlé, la sculptrice Kathleen Bruce, qui lui permit de rencontrer le sculpteur Auguste Rodin, entre autres. Alors, ce qui me porte encore à dire que Paris fut une plaque tournante pour créateurs, un passage presque obligé si l'on désirait continuer dans la voie artistique et se faire connaître dans le monde. Bon, ce qui semble avoir changé maintenant. Alors, ceci dit, d'autres femmes architectes, designers, gravitent dans ce Paris des années 20-30, et apporte un regard nouveau sur l'architecture et la décoration d'intérieur. Comme par exemple Adrienne Gorska, qui n'est autre que la sœur de Tamara de Lempicka, la peintre dont j'ai parlé l'émission précédente. Alors, outre le fait qu'elle ait décoré l'intérieur de la maison atelier de sa sœur dans le 14e arrondissement de Paris, Adrienne Gorska a exercé ses talents d'architecte au travers de réalisations d'immeubles. Et designer, elle a également créé des meubles, dont des fauteuils originaux, en mélangeant des matériaux comme des tubes chromés avec du tissu à fleurs. Alors il y a tout un petit cénacle féminin qui se lie autour des arts décoratifs, du design, de la décoration intérieure. Alors le design est un mot nouveau, qui arrive avec l'époque et les changements sociétaux. Bon, je vais vous lire la définition dans le dictionnaire, hein, pour que ce soit un petit peu clair. Or, discipline développée au XXe siècle visant à la création d'objets, d'environnements, d'œuvres graphiques, etc., à la fois fonctionnelles, esthétiques et conformes aux impératifs d'une production industrielle. Alors, parmi ces créatrices, hein, je peux encore citer l'architecte d'intérieur Charlotte Perriand, qui s'impliquera dans l'Union des artistes modernes, un groupe de créateurs qui s'attachera à innover avec de nouveaux matériaux, association dans laquelle se trouve l'architecte Le Corbusier, bien connu pour ses réalisations novatrices. Alors, c'est aussi Hélène Henry, créatrice d'étoffes et de tissus, chez qui tout l'avant-garde se fournit. C'est également Lucie Holt-Leçon, une peintre sculptrice qui réalise également du mobilier, surtout pour meubler les petits espaces. Bref, ces femmes s'inscrivent dans l'air du temps et ouvrent de nouvelles perspectives. Or, designers, architectes d'intérieur, décoratrices se trouvent également au Bauhaus, une école du design très importante en Allemagne, qui renouvelle totalement le rapport à l'objet et à l'immobilier. Et le mot d'ordre principal, c'est que la forme doit suivre la fonction, ce qui veut dire que toute ornementation superflue doit être éliminée pour ne conserver que la forme essentielle. Alors on constate donc une épuration des formes. Les matériaux employés correspondent à l'usage que l'on veut en faire, si bien que des matériaux nouveaux, insolites, font leur apparition, comme le verre, l'acier, entre autres. Et de même, en mixtant multiples formes d'art et de spécialités artistiques, hein, comme l'architecture intérieure, extérieure, décoration, etc., de cette combinaison, doit ressortir une unité. Et il est vrai que c'est au Bauhaus que l'idée de standardisation prend corps. Alors l'école est fondée par l'architecte Walter Gropius, qui apparemment posa les bases du style international, un style en relation avec la modernité, les nouvelles technologies, les transformations sociales, etc. Alors nous y trouvons Lili Reich, architecte d'intérieur, qui réalise des meubles en verre et en acier. Elle débutera sa carrière comme créatrice textile pour devenir co-directrice en 1920 du Deutscher Werkbund, la Fédération allemande du travail, une influente association mêlant industriels et artistes, et ce sera la première femme à occuper ce poste. Elle dirigera ensuite d'autres organismes, notamment un studio de design d'intérieur, d'art décoratif et de mode à Berlin, également à Francfort, pour rencontrer par la suite l'architecte Miss van der Rohe, avec qui elle collabora étroitement dans les réalisations, notamment des conceptions d'appartements, des projets d'exposition, etc. Et par la suite, Miss van der Rohe sera nommée directeur du Bauhaus de 1930 à 1933. Et Lili Reich occupera un poste de directrice d'un département du Bauhaus. Et ensemble, ils créeront et réaliseront du mobilier, dont la chaise dite de Barcelone, ou fauteuil Barcelona, qui est une genre de chauffeuse, ces petits sièges assez bas, généralement utilisés pour s'asseoir près du feu. Et donc, le fauteuil Barcelona est considéré comme l'une des créations les plus novatrices du design de cette époque, aussi bien du point de vue de son aspect extérieur que de sa composition avec des matériaux comme de l'acier chromé et du cuir naturel. Alors apparemment, Miss Van der Rohe trouvera plus juste pour lui de s'approprier la paternité des créations, c'est ce qui est dit, et je note qu'Albert Pfeiffer, hein, le vice-président d'une grosse entreprise de fabrication de mobilier, s'étonnera de la corrélation qui existe entre le succès et la créativité de Miss Van der Rohe et sa collaboration avec Lili Reich, ce qui n'était pas le cas lorsque Miss Van der Rohe travaillait en solo. Alors, en ce qui concerne le Bauhaus, j'ai lu de sources diverses que la parité homme-femme était respectée au départ, à sa création, mais que par la suite les choses ont changé. Walter Gropius estimant, à ce qu'il paraît, que les penchants décoratifs des femmes pouvaient altérer la pureté des formes dans la section architecture. Si bien que par la suite, elles ont été cantonnées au textile ou à des secteurs moins importants. Ce qui n'a pas empêché ces dames de réussir, bien au contraire, et de faire un travail dont la renommée retentit encore de nos jours, à l'exemple de Annie Albers, qui obtint une renommée mondiale en développant tout au long de sa vie un travail autour du tissu et de la création de motifs. Le tout nourri grâce à de nombreux voyages au Pérou, au Chili, au Mexique, à Cuba. Tout un parcours fructueux qui lui attirera de nombreuses commandes. Et d'ailleurs, un grand designer américain, Henri Didel, et je vous le lis, Annie Albers, plus que n'importe qui d'autre dans l'art du tissage, a réussi à faire comprendre au plus grand nombre l'art des tissus. Elle a su marier admirablement les capacités intuitives de sculpture de l'artiste et le métier millénaire du tisserand. Alors Gunta Stoltz, également tisserande et membre du Bauhaus, a créé deux œuvres actuellement exposées dans de nombreux musées, notamment au MoMA, le Musée of Modern Art de New York. Marianne Brandt, elle, réalise des objets en métal, notamment des services à thé ou à café. Elle a d'ailleurs dirigé l'atelier métal, puis ensuite pris la direction d'une entreprise d'ustensiles ménagers. Et ses créations sont considérées comme des modèles du genre moderniste. Quant à Alma Seedorf-Bücher, elle a réalisé, entre autres créations, un jeu de construction pour enfants en forme de bateau qui leur permet de développer leur créativité. Et ce jeu est encore produit actuellement. Alors encore ici, quelques exemples de plus de femmes qui ont laissé derrière elles des créations notables, même si la plupart d'entre elles ont été oubliées. Et sur ces bonnes paroles, un peu de musique nous fera le plus grand bien. Bon, évidemment, je n'ai plus besoin de l'annoncer. Nous allons écouter une musique composée par une femme. Aujourd'hui, eh bien, je vous propose d'entendre une Allemande nommée Johanna Senfter. Toujours du mal à prononcer. Bon, elle est née en 1879 et a vécu jusqu'aux années 60 du XXe siècle, bien sûr. Bon, elle a d'abord étudié la composition, le piano et le violon au Conservatoire de Francfort, puis ensuite s'est perfectionnée au Conservatoire Royal de Leipzig. Bon, on peut dire qu'elle a reçu une solide formation musicale, classique, traditionnelle et romantique. Elle obtiendra en 1910 le prix Arthur Nakisch pour la meilleure composition étudiante. Elle fondera par la suite l'Oppenheim Music Society dans la même ville du même nom et y organisera des concerts où elle diffusera, entre autres, ses propres créations. Alors, il est dit qu'elle a composé des symphonies, des concertos, de la musique de chambre et de la musique pour orgue, ainsi que pour piano et chant, une vingtaine d'œuvres pour orchestre et en tout 134 œuvres dans plusieurs genres. Et d'après ce que j'ai lu, c'est quelqu'un qui aurait déploré d'être une femme et elle avoue que si elle avait été un homme, sa vie musicale aurait été davantage facilitée et donc fructueuse. Eh bien nous, nous allons faire maintenant une place à Johanna Senfter et à son œuvre intitulée Vogelverse. Thank you. Bon, j'espère que vous avez apprécié. Alors, lorsque j'ai présenté l'architecte-designer Hélène Gray, j'ai également mentionné le nom de Kathleen Bruce. Voyons donc qui est cette artiste et ce qu'elle a réalisé. Alors, Kathleen Bruce est une sculptrice britannique née en 1878. Elle gravite dans des milieux aisés et en vue, puisqu'elle est la fille, elle est fille de Lord et épousera des personnalités connues et reconnues, notamment du monde scientifique. Et en première noce, elle épousera un explorateur polaire nommé Robert Falcon Scott, aura un fils nommé Peter Scott, dont la notoriété s'affirmera dans les milieux de l'ornithologie et de la peinture, hein, notamment. Et elle convolera en seconde noce avec un homme politique britannique, Edward Hilton Young, ce qui fait qu'elle sera la mieux placée en tant que sculptrice pour immortaliser ses époux, ne serait-ce que l'explorateur, puisqu'une statue en bronze est érigée sur la Waterloo Place de Londres, alors qu'une autre en marbre se trouve à Christchurch en Nouvelle-Zélande. C'est une sculptrice traditionnelle, hein, dans le sens où elle réalise du figuratif, des portraits fidèles à leur modèle. Elle a surtout réalisé des bustes, sculpté des statues de personnages plus ou moins connus ou proches d'elle. Donc voilà, ben pour Kathleen Bruce, hein, qui même si elle ne s'inscrit pas dans ces courants modernistes d'avant-garde, a pu exister en tant qu'artiste, grâce à de bonnes réalisations. Mais revenons à nos Allemandes, hein, notamment celles qui se sont intégrées au mouvement Dada, car le dadaïsme, je vous en avais parlé, ce mouvement artistique et littéraire lancé par Tristan Tzara, basé sur la dérision, le jeu, la liberté d'expression, au-delà de toute convenance, s'est intéressé à des formes de création insolites, comme par exemple le collage. Et c'est en quelque sorte, initié par Braque et Picasso, que les dadaïstes se révèlent des adeptes du collage, des photomontages et assemblages divers, et également les femmes artistes en font partie. Alors l'une d'elles est la compagne d'un artiste issu du groupe dadaïste de Cologne en Allemagne, et nommé Raoul Haussmann. Et celui-ci serait l'inventeur du photomontage. Et sa compagne, nommée Anna Hoch, va choisir le photomontage comme médium d'expression privilégié. Alors elle découpe ainsi des photos dans des revues et les assemble de manière à créer des compositions insolites qui semblent révéler ses états d'âme. Alors c'était une contestataire qui refusait l'image traditionnelle de la femme telle qu'elle était présentée et elle le contestait apparemment au travers de ses créations, en reconstruisant à sa manière les corps féminins, qui ne ressemblaient plus du tout au canon de la beauté féminine de l'époque, cela va sans dire. Alors sur son travail, elle aurait dit, et je vous le lis, les nouvelles possibilités consistant à travailler d'une manière libre, non logique, visant consciemment à des contrastes grotesques et choquants, et qui se servait de coupures arbitraires de magazines et de dépliants publicitaires, de photographies originales et de papiers de couleur, de caractères d'imprimerie et d'écriture expressive, démontre à quel point Apollinaire, hein, donc le poète, hein, je pense que vous connaissez, Apollinaire avait raison lorsqu'il annonçait dès 1913 qu'il était possible de peindre avec n'importe quel matériau. Bon, moi j'aurais mis créer ou exprimer peut-être avec n'importe quel matériau, hein. Enfin bon, j'ai respecté la traduction. Alors il est dit qu'elle essayait à la fois de renouveler les formes en les associant différemment, de manière également à ce qu'elles expriment autre chose que ce qu'elles signifient à l'origine, et c'est compréhensible. Alors j'ai regardé bien évidemment ses œuvres, hein, qui tournent beaucoup autour de la figure féminine, qu'elle met en scène à sa manière. Alors une Russe nommée Olga Rosanova, elle, née en 1886, inspirée par les cubistes et les futuristes, en sera une fervente adepte. Alors à l'égal des futuristes, ce mouvement novateur basé sur la technique et les nouveaux modes de déplacement rapide, il lui plaira d'intégrer des morceaux d'éléments du réel à ses toiles. Et elle se rapproche d'ailleurs d'un peintre devenu aussi célèbre pour son fameux monochrome blanc intitulé « Carré blanc sur fond blanc ». Il s'agit du russe Casimir Malevitch qui a défrayé la chronique en son temps. Et elle fera partie de son groupe, le groupe Supremus. Alors j'ai aussi regardé son travail du mieux que j'ai pu, avec les moyens à disposition. Bon, je lui trouve de l'intérêt. Ses compositions sont colorées, vivantes. Évidemment, bon, c'est de l'abstrait, et donc ses toiles sont dénuées de toute référence narrative. Quant à l'Argentine Hélène Agar, bon, là, ce n'est plus une Allemande, mais bon, peu importe, qui est née en 1899 à Buenos Aires, c'est la technique de l'assemblage qui lui semblera la plus propice à expression. Sorte de sculpture composite avec différents matériaux collés ensemble. Alors elle aussi s'est retrouvée à Paris et s'entourera des artistes surréalistes, entre autres comme André Breton, Paul Éluard, etc. Son œuvre la plus célèbre est intitulée « L'ange de l'anarchie », réalisée en 1940. Une tête mêlée d'éléments composites, décorée de tissus, de perles, de plumes. Bon, il paraît en outre qu'elle fut la seule femme à être invitée à exposer à l'exposition internationale surréaliste au Burlington Gallery à Londres en 1936, où apparemment elle a dû faire sensation avec son insolite chapeau, car surréaliste, hein, dont elle s'est affublée et qu'elle a intitulé « Chapeau de cérémonie pour manger de la bouillabaisse ». Bon, je pense qu'il est inutile de méditer sur le sens. N'oublions pas que nous gravitons avec Hélène Agar dans une ambiance surréaliste. Bien, ben, nous allons laisser ces adeptes du collage en tout genre pour revenir à d'autres formes d'expression dont les femmes se sont appropriées. Alors, pour essayer de revenir un peu vers l'Allemagne et les Allemandes, il est à constater que beaucoup d'entre elles, et des peintres notamment, faisaient partie du mouvement expressionniste, ce que l'on pouvait également retrouver dans le Bauhaus. Mais je constate qu'il est bientôt temps de nous quitter. Nous poursuivrons nos déambulations artistiques en compagnie des expressionnistes, qui sont surtout allemandes de nationalité, et nous verrons cela donc la prochaine fois. Certainement ferons-nous quelques petits tours d'Europe, et qui sait si nous ne passerons pas les frontières de pays plus lointains à la recherche et à la découverte de ces femmes créatrices artistes. Je vous rappelle, avant de nous quitter, que La Voix des Arts émet la même émission pendant 2 semaines, que si vous ne pouvez pas écouter les émissions sur les ondes de notre radio RLP, Radio Libre en Périgord, parce qu'elles sont trop courtes, vous pouvez écouter où que vous soyez la radio sur site internet www.radiolibreenperigord.com, Radio Libre étant au pluriel. Les horaires d'écoute de La Voix des Arts sont le lundi à 13h30, le jeudi 17h30 et le samedi à 11h30. Je vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous pour bientôt, avec plaisir, pour la suite de nos aventures artistiques.
La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.